posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Laure Closier, bonjour.
Bonjour Nicolas.
C'est la quatrième chronique pile ou face pour démarrer ces éliminatoires. Et à un moment, quand on est chef d'entreprise, il faut choisir. Est-ce qu'il faut avoir son capital, pas avoir son capital, être incubé, pas incubé? Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut être seul ou est-ce qu'il faut avoir des petits copains, être à plusieurs?
Oui, parce que dans nos candidats à la BFM Academy, on a à peu près tous les profils. Hein. Seul, entre conjoints, avec son père, son cousin Germain, son copain de promo. Peu importe, ils sont tous motivés. Enfin, peu importe, finalement, peut-être pas tant que ça. Pour préparer cette chronique, j'ai fait le tour de quelques spécialistes de la création d'entreprise. J'ai trouvé personne qui conseille d'être seul dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, j'ai pas trouvé non plus beaucoup d'exemples d'entrepreneurs en solo, je veux dire en vrai solitaire. Hein. Frédéric Mazella chez Blablacar, vous pensez qu'il est seul? Bah non, ils sont trois. Chez Sigfox, vous pensez que Ludovic Lemoyle est seul? Bah non, il a un associé. Le fondateur de Save, lui, est seul et il a traversé pas mal de galères. Alors l'entrepreneur doit maîtriser une quinzaine de disciplines différentes, du technique, du juridique, en passant par la communication, le marketing, les RP. C'est quand même très dur d'avoir tout ça dans la même personne, c'est ce qu'explique Olivier Erzati, l'auteur du guide des startups. Quand on est plusieurs, on rassure les parties prenantes et la première de toutes, les financiers, et puis on multiplie sa force de frappe face à la presse, par exemple, ou dans des représentations, vous n'avez pas le même impact si c'est vous qui intervenez un fondateur plutôt qu'un salarié. Même si celui-là est compétent, on veut parler au fondateur. Alors d'accord, on ne va pas non plus se forcer à se trouver des amis. On n'est pas obligé quand même de se forcer. Et puis, tout seul, au moins, on risque pas de se fâcher. Alors, c'est vrai qu'entre associés, on n'est pas toujours en phase, notamment avec la résistance au stress. Mais quand même, l'entrepreneur en solitaire, ça ressemble à un surhomme ou à une surfemme, parce qu'on en a quelques-uns dans l'équipe.
Bon, en tout bien, tout honneur, Eve Chégaret, seul ou à plusieurs?
Bon, je vous livre ma petite philosophie venue du lointain Orient. Ça devait être Lao Tzu qui disait « Tout seul, on va très vite ». Mais c'est seulement à plusieurs qu'on va loin.
Aujourd'hui, trois candidats donc dans cette BFM Academy, Boombox, My Sésame et We Farm Up. C'est parti.
BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Sidney Rubinstein, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, il coupe le son. Il remet le son. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça en regardant la courte présentation de Boombox.
Je m'appelle Sidney Rubinstein, je suis le cofondateur de Boombox. C'est une application mobile qui vous permet de synchroniser la musique sur tous vos téléphones afin d'amplifier le son. Ça marche très simplement. Il vous suffit de lancer une musique sur votre téléphone dans l'application Boombox et des gens qui sont autour de vous vont pouvoir vous retrouver dans l'application et se joindre à vous pour jouer la même musique simultanément. Et la somme des téléphones en train de jouer va pouvoir créer un effet d'amplification du son. Vous pouvez être 2, comme vous pouvez être 10, comme vous pouvez être 1000. Il n'y a pas de limite. C'est une solution qui fonctionne en Wi-Fi comme en 4G. Boombox vous permet donc de faire la fête en toutes circonstances, mais vous pouvez aussi trouver d'autres usages. C'est une technologie de synchronisation qu'on peut aussi proposer pour d'autres formats, comme par exemple la vidéo. Demain, vous allez regarder des films chez vous en réalité virtuelle avec le casque à la maison. Il y a un besoin que le film soit exactement synchronisé pour qu'on puisse tous le vivre au même instant. On vient de lancer l'application sur les App Store. On approche les 10 000 utilisateurs alors qu'on vient à peine de lancer nos campagnes de communication. Et de l'autre côté, en B2B, on espère dégager 100 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année.
Voilà, Boombox avec Sidney Rubinstein. On est plus fort à plusieurs, on a dit. Voilà, si on met plusieurs smartphones ensemble qui sont reliés par des technologies secrètes, eh ben on a un fabuleux haut-parleur. Question-réponse, hein, Gonzague de Blinière, Eve Chégaret, vous voulez en savoir plus?
Bon, on a vu un peu comment ça marche, mais maintenant on veut comprendre où vous voulez aller. Donc il y a la Boombox app qui permet effectivement au smartphone de se connecter, de se synchroniser. Il y a cette technologie derrière de synchronisation. Qu'est-ce que vous allez proposer aux grands comptes?
Alors nous, effectivement, l'application, elle est là pour montrer la technologie, montrer ce qu'on est capable de faire, montrer qu'elle existe et qu'elle fonctionne, c'est surtout ça. Nous, ce qu'on veut proposer aux grands comptes, c'est justement de synchroniser la réception. Donc tout ce qui concerne la diffusion de flux, et typiquement ici, chez BFM, on est au cœur du système, on diffuse la télévision chez soi, ça n'a pas de sens aujourd'hui qu'on puisse pas la recevoir en synchronisé alors que vous les mettez en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que sur nos téléphones, si demain j'ai envie de regarder BFM en mobilité, je suis avec des amis et je mets la chaîne de télévision sur mon téléphone au café, et que demain, au lieu qu'on soit 5 sur un écran à regarder l'écran, de pouvoir se dire, ben non, chacun son écran, on regarde chacun son image, mais on la regarde au même moment, parce qu'on a envie de commenter l'information au même moment.
Et c'est vrai qu'actuellement, il y a toujours des décalages. Bon, ça, on le connaît.
D'où est venue cette idée? Parce que finalement, vous allez emmerder tout le monde, ça va faire du bruit, les parents vont être contre. Comment est venue l'idée ?
Alors, juste pour revenir sur le fait d'emmerder tout le monde, on a une solution, c'est qu'il suffit de mettre ses écouteurs. Et ça marche aussi de manière synchronisée, en toute intimité. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. D'autre côté, nous, l'idée, ça fait très longtemps qu'on l'a, en réalité, ça date des débuts des App Store, en 2008-2009, ce qui n'était pas possible de faire à l'époque. Pourquoi ? Parce que la technologie ne le permettait pas. Et nous, on s'est lancé, on a commencé à y réfléchir en 2014, parce que c'est l'année où, à la fois, la 4G est arrivée sur le marché, et à la fois, on a eu l'iPhone 6, et donc les débuts de smartphones très puissants. Et c'est cette convergence des technologies qui nous a permis de pouvoir enfin le réaliser.
D'accord. Et comment un utilisateur sera mis au courant de cette application ? Parce que pour l'utiliser, il faut que je la connaisse. Donc il va falloir que vous fassiez de la pub, comment vous faites du B2B, mais il faut que le C soit au courant.
Et exactement. Alors nous, on fait du B2C avec Boombox. On a la chance de pouvoir travailler, de collaborer avec des artistes qui vont relayer notre information. Puis on va commencer des campagnes de communication, dont BFM est peut-être le tremplin de départ, en réalité. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est éduquer le public, tout simplement, à cette technologie qui est innovante, qui peut paraître peut-être pas essentielle pour certains, mais qui, en réalité, va devenir un standard très vite, parce qu'on a besoin de consommer et de diffuser l'information de manière simultanée.
Mais c'est ça, ma question, Sidney. En fait, la grande finalement, techniquement, sur les technologies, on n'est jamais inquiet. On sait bien que les startups suent sang et eau pour faire aboutir et améliorer leur technologie. Donc, on sait que vous allez faire ce qu'il faut pour que ce soit commercialisable. Mais qu'est-ce que ça change vraiment pour un média, pour une chaîne, pour, je sais pas, des événements de formation, vous l'évoquiez aussi.
Je vais vous donner un exemple qui, j'imagine, l'antenne de BFM a commenté d'ailleurs l'année dernière pendant l'Euro de foot. Tout le monde se plaignait que l'on entende les buts chez les voisins, une minute avant, une minute après. Nous, voilà, un problème qu'on peut venir enfin régler, c'est de différer sur la diffusion. Donc, il y a de l'expérience utilisateur qui est vraiment sensible à ça et à ce sujet-là. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on vient concurrencer tous les systèmes de diffusion, notamment, par exemple, la radiofréquence. Et par exemple, le mois dernier, j'ai visité les catacombes de Paris et on vous donne un petit boîtier pour vous pouvez suivre et écouter le guide audio,
oui,
en fait.
Comme
et
dans les musées,
tout à fait, comme dans tous les musées. Et puis, on est 8. Et on ne vit pas et on n'écoute pas les choses en même temps. Et donc j'étais là, j'étais au numéro 1, au numéro 2, et on a envie de commenter, de vivre cette information de manière simultanée, et ce n'était pas le cas. C'est là que c'est dommage.
Mais donc et ça veut dire que l'idée qu'on transforme les smartphones présents dans la même pièce en super haut-parleurs, en les mettant tous au diapason de la même musique, c'est une espèce de produit d'appel que vous nous présentez. C'est une tête de gondole. Vous n'avez pas créé le super haut-parleur, parce que d'ailleurs, même si on met qu'un smartphone et qu'on les met tous ensemble, on n'a pas un son extraordinaire.
On n'a pas un son extraordinaire, mais on a déjà quelque chose de bien. Hein. Vous mettez autour d'une piscine, vous en mettez aux quatre coins, quatre téléphones, je vous promets, ça suffit. Hein.
C'est pas mal. Je m'appelle BFM, je vous laisse faire tout seul. Moi, j'ai ma propre application, je vais mettre de l'argent sur la table et puis je vais faire pareil. Je m'appelle YouTube.
Vous pouvez essayer, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Nous, ça reste une technologie qu'on a mis quand même près de 2 ans à développer.
Pourquoi c'était si long ?
Alors, protéger. Oui et non, pas au niveau de la loi, parce qu'en France, malheureusement, un code informatique est difficilement brevetable, c'est extrêmement compliqué, ça coûte cher et on n'est pas sûr du résultat, donc nous, on ne brevette pas. Nous, on se dit plutôt, on est les premiers sur le marché et c'est comme ça qu'on prendra la concurrence.
Mais alors, Sidney, là, tout de suite, maintenant, vous avez besoin de quoi pour passer un cap significatif et pour que votre boîte, qui est quand même encore un peu en mode
R&D, bien sûr.
Voilà, nous, du premier pilote.
On sort de 2 années de R&D, de préparation, de stratégie. L'application est enfin mise en ligne, vous pouvez donc la télécharger et l'utiliser sur iOS et sur Android. Elle est gratuite, en plus de ça.
Pour l'instant.
Et donc, de l'autre côté, sur la partie B2B, donc on travaille déjà avec des premiers grands acteurs, que ce soit dans votre industrie, parce qu'il s'agit de groupes radio, qui sont les premiers intéressés.
Donc là, on sent qu'on ne va pas citer les noms.
Non, on ne cite pas les noms. Mais je vais vous donner un exemple intéressant. Et la Finlande, il y a quelques mois, a annoncé qu'ils allaient arrêter la diffusion hertzienne. Voilà, de la chaîne publique nationale. Donc c'est bien qu'on ait sur ce mouvement-là de passer dans le digital.
Pourquoi le hertzien ? Pour des raisons de santé,
pour des raisons de coûts, tout simplement. Pour supporter les coûts de diffusion, parce que les gens consomment majoritairement dans le digital. Et aujourd'hui, on veut recréer cette expérience du hertzien, tout simplement, dans le digital.
Et vous, vous êtes là pour ça. Vous avez besoin d'argent, là, en ce moment ?
Les startups ont toujours besoin d'argent, on ne dit jamais non. Oui, on cherche à lever des fonds, on est en phase avancée de closing avec plusieurs groupes de business angels. On espère pouvoir le faire très très prochainement. L'objectif de lever de fonds, l'objectif principal, c'est surtout de l'embauche technique, parce qu'on va avoir besoin, quand on va s'intégrer dans les grands comptes, d'embaucher des personnes sur des métiers qui sont différents de la R&D, du développement informatique, mais qui sont plus tournés sur la maintenance, pour pouvoir assurer la charge et les connexions.
Et qui fera la communication auprès du CI ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le client final.
Ah, ben je suis là pour ça, pour le B2C. Alors après, on compte sur nos clients grands comptes
pour
faire partie de cette communication. Tout à fait, ouais. C'est un relais qu'on va construire ensemble, c'est l'objectif. D'accord. Nous, ce qu'on souhaite créer, c'est un standard, en fait. C'est un standard de diffusion. Et on souhaite l'implémenter dans les grands groupes médias de diffusion, mais également les grands groupes de streaming. Aujourd'hui, Periscope, Facebook Live, effectivement, ils diffusent en direct, mais on ne reçoit pas cette information en direct. Imaginez-nous brancher chez eux, on pourrait quand même créer des expériences utilisateurs quand même beaucoup plus agréables.
Et c'est d'autant qu'à chaque fois qu'on essaye, on a quand même un petit peu des bugs techniques. C'est jamais tout à fait fluide. Et ça crée même un peu des freins à avoir envie de s'en servir. Une autre question, qui fait vraiment quoi? Parce que dans votre dossier d'inscription, on a Robin qui est le président, vous Sidney au produit et au marketing, okay. Alexandre au commercial et David au partenariat. Je voudrais comprendre à quoi ressemble votre journée en quelques mots.
Avec une réponse courte, hein, Sidney.
Eh bien, une réponse courte, c'est très simple. On est des startups, donc on a chacun nos rôles prédéfinis. Alexandre est un très très bon chasseur commercial et je suis sûr qu'il va réussir, qu'il nous a déjà donné beaucoup de rendez-vous. Moi, je m'occupe de la gestion du produit, des évolutions de la roadmap produit, parce qu'aujourd'hui, on vous propose de l'audio, mais bien sûr, demain, on va être sur la vidéo et avec des nouveaux formats et voire même des formats publicitaires. Et Robin s'occupe de la gestion et des relations avec nos investisseurs. C'est surtout ça en ce moment.
Bon voilà, c'était l'histoire de Boombox brièvement résumée au travers des questions de Gonzague Deblinière et Eve Chégaré. Alors en fait, oui, il synchronise les smartphones, mais vous supprimez l'antenne râteau aussi, si j'ai bien compris. Il y a tout un, voilà. On en dira un peu plus tout à l'heure pendant la mouche du coach. On va passer à notre deuxième candidat aujourd'hui, c'est Maï Sésame. Laurence Grandcola, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la BFM Academy. Elle vient nous présenter Maï Sésame. On a un petit sujet en image pour tout comprendre et puis après on aura quelques questions pour en savoir plus. C'est parti.
Je suis Laurence Grandcola, je suis la fondatrice de Maï Sésame, qui est une start-up sociale que j'ai créée il y a un an. Et Maï Sésame, c'est un organisme de formation qui accompagne les managers et les dirigeants d'entreprises, petites, moyennes ou grosses, à comprendre des nouveaux modèles d'économie qui sont plus vertueux, plus durables et plus inclusifs. Le fait de se former chez Maï Sésame, en fait, ça permet à la fois de découvrir des modèles innovants qui combinent approche business et impact social ou environnemental, et en même temps d'engager ses salariés sur des sujets qui ont du sens et qui réinventent l'entreprise. Donc c'est à la fois un avantage business et un avantage RH pour engager vraiment ses salariés. Par exemple, avec une entreprise du textile, on les a formés pendant une journée en interne et ça les a aidés à repenser comment ils allaient gérer leurs déchets de façon plus circulaire en interne dans leur entreprise. On a déjà formé depuis un an à peu près 150 personnes et notre objectif d'ici à 2018, c'est de former plusieurs milliers de personnes et d'avoir un chiffre d'affaires d'à peu près 400 000 euros. Et notre impact, il va au-delà des gens qu'on forme, c'est vraiment comment on diffuse ces nouvelles pratiques et ces innovations sociales au-delà des gens accompagnés par Maï Sésame.
Gonzague Deblinière, Eve Chégaré, voilà Maï Sésame, la formation des managers aux innovations sociales.
Eh ben, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Et moi, j'ai découvert avec vous, Laurence, que les grands groupes étaient en train de vraiment s'occuper de former des gens pour aller vers de nouveaux marchés. Expliquez-nous comment vous avez compris que voilà, la pauvreté et certaines évolutions de notre société étaient en fait un marché. Est-ce que c'est pas trivial de dire ça ?
En fait, moi, ça fait 8 ans que j'évolue dans un écosystème qui est celui de l'entrepreneuriat social. Donc, des gens qui combinent impact social et logique business. Et c'est des vrais leviers d'innovation. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la raréfaction des ressources, c'est une réalité pour toutes les entreprises. Le fait que les clients s'éloignent, se fragilisent, c'est une réalité pour toutes les entreprises. De la même manière, le fait qu'il y a des gens plus fragiles aussi à intégrer dans les emplois des entreprises, c'est aussi une réalité pour toutes les boîtes aujourd'hui. Et donc, la question, c'est de se savoir... Est-ce qu'on approche ça par une approche philanthropique, mécénat uniquement, ou est-ce qu'on décide d'avoir des approches business qui sont les seules approches qui sont pérennes et qui sont du coup des vrais leviers d'innovation pour les entreprises aujourd'hui?
Donc, de nouvelles offres pour des clients moins riches que la moyenne de ce qu'on a en Europe, en Occident aujourd'hui?
Oui, c'est un des sujets parce qu'effectivement, il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui consomment et qui dépensent pour être mal servis, mal logés, mal équipés, mal chauffés parce qu'ils souffrent de problématiques de double peine. Enfin, globalement, en France, quand on est en précarité, on paye en général plus cher. Donc, ces gens-là, ils ont le droit d'être des citoyens économiques et du coup d'avoir des offres et des services adaptés. Mais il y a plein de sujets dans l'innovation sociale qui sont autour aussi de faire avec moins de ressources, autour de l'économie circulaire, engager les gens à être plus partie prenante de l'entreprise. Donc, il y a vraiment plein de choses.
Beaucoup de choses à faire.
Que recouvre l'innovation sociale.
Gonzague Deblinière, allez.
Ouais, Laurent, je trouve ça très louable. D'ailleurs, vous venez d'Ashoka, qui est une association superbe. Pourquoi vous ne faites pas une association? Vous voulez faire une entreprise? Mais finalement, c'est, vous voulez changer le monde, c'est associatif, et puis vous pourrez mettre des reçus fiscaux, ça sera plus facile. Pourquoi vous partez sur une entreprise?
Alors, exactement parce que je pense qu'il faut que nous, on incarne ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on peut, par des logiques business, avoir un impact social. Donc My Sésame, c'est une SAS et c'est vraiment un parti pris fort qui a un business model de boîte. On vend de la prestation de services, de la formation à des entreprises. Et en même temps, le premier objet de notre statut, c'est effectivement de transformer le business model des boîtes en formant les talents vers une économie plus vertueuse.
Mais j'insiste, si vous étiez une association, vous seriez différente des autres, parce que vous avez plein de concurrents. L'avantage du service, c'est qu'il n'y a pas besoin de capitaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça.
Alors aujourd'hui, sur la formation professionnelle, il n'y a pas tellement de gens qui ont notre expertise, d'une part. Et puis, c'est un vrai marché, puisqu'aujourd'hui, la formation professionnelle en France, c'est 8 milliards d'euros. Donc il y a quand même une vraie opportunité à saisir. C'est des budgets qui sont très bien dotés dans les entreprises, souvent très mal dépensés. Et du coup... je pense qu'il y a une logique business, mais il y a vraiment une logique de conviction derrière, de se dire, moi je crois à une économie qui combine impact social et pérennité économique, et donc il fallait que je l'incarne dans ma boîte. Si je montais un modèle associatif, okay. J'étais
donc,
pas cohérente.
Si j'ai droit encore à une question, donc pour scaler, pour ouais. grandir, la seule façon c'est de recruter des formateurs.
Alors, oui et non.
Alors, quelle organisation, oui.
J'ai été très influencée par le modèle Ashoka où on parle d'impact systémique. Puisque moi, mon sujet, ce n'est pas seulement de grandir en tant qu'entreprise, mais faire grandir mon impact. Donc, effectivement, c'est recruter des formateurs. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le bras armé opérationnel. La formation, c'est
maintenant. Alors, ils ont quel genre de profil?
Aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt issus de l'écosystème de l'innovation sociale. On va avoir un vrai enjeu à sortir de cet écosystème qui est quand même petit pour pouvoir former des formateurs qui sont des formateurs en management, en leadership. Donc ça, c'est un des piliers. Et puis l'autre levier pour changer d'échelle, c'est comment on a un impact en dehors de l'organisation My Sésame. Comment on est un influenceur. Comment, en fait, moi, mon sujet, c'est comment demain, on fait que le sujet de l'innovation sociale, c'est un
tout
sujet
le monde
de management.
S'en empare, oui.
Et limite, si My Sésame, dans 5 à 10 ans, disparaît, c'est que j'ai gagné.
Donc voilà. Vous décloisonnez les entreprises et son environnement, en fait.
Alors justement, on est sur des sujets de réseau, de connexion, de décloisonnement, que quand même on aime plutôt bien ici, c'est pas un scoop. Vous parlez de votre réseau d'ailleurs qui vous porte et qui vous soutient, mais c'est qui est le relais de My Sésame qui vous propose au grand compte? Comment vous vous appuyez sur les autres?
Alors au début, on est parti sur une communauté de pionniers qui étaient des gens convaincus dans l'entreprise, sachant que tout mon sujet, c'est de sortir de cette petite communauté de gens qui connaissent le sujet de l'innovation
sociale. Ouais, mais pour l'instant, faut bien...
Donc eux, souvent, nous font rentrer. Pour autant, aujourd'hui, on arrive à sortir parce qu'on commence à avoir une notoriété, parce qu'on a la chance d'avoir BFM qui nous a suivis, voilà, parce que c'est des vrais leviers de notoriété, de légitimité. On commence à rentrer vers une communauté qui est beaucoup plus intéressante dans les entreprises pour moi, qui sont les DRH. Parce que les DRH, aujourd'hui, vont avoir un rôle stratégique dans le déploiement des entreprises demain. Ils comprennent que la formation des talents, ça doit pas être seulement sur de l'innovation digitale, mais que l'innovation sociale, c'est un vrai levier d'innovation, et qu'en plus, ils ont des communautés de talents de haut potentiel qui veulent du sens. Et donc, nous, on répond aussi à ça.
Et quels freins vous rencontrez aujourd'hui pour comprendre ce qui pourrait vous aider à passer des caps encore plus vite?
Aujourd'hui, on crée une entreprise, en même temps, je crois qu'on crée quand même un marché. Donc on n'est pas sur un marché mature, on est aussi dans le prospectif, donc on a à la fois une conviction à porter puis un déploiement opérationnel d'une entreprise. Donc c'est probablement ça, il faut aussi qu'on ait la patience que notre marché...
Il y en a d'autres qui créent ce marché avec vous en ce moment? Peut-être avec...
Ça commence à foisonner et on essaie justement, nous, au maximum, de voir comment on se met en bonne intelligence, comment on développe des offres complémentaires. Il y a plus de structures qui sont dans le conseil et la transformation. Et nous, on aime bien être la brique amont de formation, d'acculturation et ensuite de connecter avec ces gens-là.
Alors, j'ai vu que vous adressiez à des grands groupes ou des entreprises, mais aussi à des individus.
Oui.
Pourquoi s'adresser à des individus? Parce que c'est des futurs formateurs peut-être un jour, que
c'est
pour
des futurs ambassadeurs, surtout dans les entreprises. En fait, je crois que les parcours individus, c'est un peu comme si on créait notre force marketing et commerciale via des gens qui ont suivi des parcours de formation My Sésame, qui ont compris qu'en fait l'économie est en train de changer et qu'on peut faire du business et du social et de l'environnemental en même temps, et qui demain vont être les meilleurs porte-parole.
Ils sont clients d'abord et puis après ils sont fournisseurs.
Ils sont commerciaux.
Laurence Gancola, est-ce qu'on peut juste essayer d'incarner en quelques mots ce que vous mettez derrière cette expression sociale. Innovation sociale? Quels sont 2-3 actes véritablement de management qui traduisent ce que vous nous expliquez?
Par exemple, développer des programmes d'insertion dans l'entreprise, c'est-à-dire d'aller chercher des publics plus fragilisés, mais qui vont avoir une vraie valeur ajoutée dans votre entreprise, des politiques de diversité. Ça, c'est ce que les entreprises ont commencé à mettre en place déjà et qui est probablement le plus mature aujourd'hui. Et puis après, ce qu'évoquait Eve, c'est comment on développe des produits et des services pour des populations fragilisées. Je vous donne un exemple très concret en une minute.
Même pas, beaucoup moins.
Compte Nickel, c'est comment on développe des produits et des services adaptés à des publics qui sont non bancarisés. Et quand on est non bancarisé en France, c'est 3 à 5 millions de personnes. on n'est pas des citoyens économiques.
Voilà, donc les formations bio, éco, responsables, équitables de Maïs Sésame avec Laurence Grandcola, troisième candidat pour ce dernier éliminatoire de la saison 12. On fait la connaissance de WeFarmUp. Laurent Bernet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la BFM Academy. Préférer l'usage à la propriété. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Et c'est valable à la ville comme au champ. Regardez.
Je m'appelle Laurent Bernet. Je suis cofondateur de WeFarmUp, une entreprise que j'ai créée en 2015. C'est une plateforme de partage de matériel agricole. Le constat est simple, le matériel coûte de plus en plus cher et les agriculteurs sont obligés de s'endetter très lourdement pour avoir accès à ces matériels-là. Et ça pose un véritable problème au niveau de la compétitivité de la ferme France. Donc l'idée, c'est de rendre visibles ces matériels sur une plateforme et les rendre accessibles pour des locataires qui ont besoin de ce matériel un instant et dégager un nouveau revenu pour les propriétaires qui ont décidé de partager ce matériel-là avec le réseau WeFarmUp. Aujourd'hui, nous avons plus de 4500 exploitations agricoles qui sont connectées au réseau WeFarmUp et nous recensons plus de 3500 matériels. Alors on retrouve du tracteur, de l'outil travail du sol, du semoir, de la moissonneuse batteuse, tous les matériels qui sont stockés sous les hangars. Aujourd'hui, nous couvrons à peu près 80% du territoire français et notre volonté, c'est dès cette année de pouvoir nous internationaliser dans les pays d'Europe de l'Ouest. La compétitivité de la ferme France est un enjeu majeur et elle doit se faire tout en conservant le tissu d'exploitation familiale.
Oui, WeFarmUp, F. Chégaret, Gonzague de Blinière.
Alors, on est dans l'économie de la fonctionnalité, voilà, ça nous a pas échappé. Première question, pourquoi vous êtes mis sur ça alors que les coopératives font ça depuis très longtemps?
Mais les coopératives, c'est des groupes de personnes, et surtout, on achète une machine et que l'on fait tourner à tour de rôle. Alors qu'autour de nous, on a des milliers de machines qui sont disponibles à l'instant où l'agriculteur en a véritablement besoin. Donc, c'est un nouveau canal d'accessibilité au matériel agricole.
Et les agriculteurs n'ont pas tous besoin de moissonneuses en même temps?
Ben, déjà, les cubains, comme vous le disiez, les coopératives ont déjà démontré qu'on pouvait utiliser les matériels en séquence. Et puis, toujours pareil, dans un écosystème agricole, il y a des milliers, centaines de moissonneuses batteuses autour de mon exploitation. Et à un moment, il y en a toujours une de disponible.
Et pourquoi, avec l'accent que vous avez appelé votre entreprise WeFarmUp?
Alors, le nom de l'entreprise, ça a été sûrement le plus compliqué. Et on a souhaité vraiment y mettre le oui pour le nous, le réseau, le monde agricole, c'est quand même le faire ensemble. Il y a une véritable, c'est un principe séculaire. Le farm, parce que c'est une consonance anglo-saxonne, on a quand même des envies d'export, d'international. Et up, parce que simplement, on veut réinjecter de la compétitivité dans la ferme France.
Et moi, je suis fermier quelque part. Je vais louer par votre intermédiaire mon matériel à mon voisin. Qu'est-ce qui me garantit que mon voisin ne va pas me le casser? Et s'il me le casse, qu'est-ce qui se passe?
On a développé, c'est tout le savoir-faire de la plateforme, justement. On a des applications pour faire l'état des lieux. Moi, je suis mandataire d'assurance de Groupama, donc qui est le leader incontesté de l'assurance machine agricole dans le monde agricole. Donc derrière, on a toute une couverture assurantielle qui permet de garantir au propriétaire qui met à disposition ce matériel qui va être retourné dans les bonnes conditions.
Donc il y a du service aussi.
Et bien entendu.
Cessez donc de vous endetter, préférez la location, pratiquez le co-farming. Voilà, on marque une petite pause dans cette BFM Academy. La suite de la découverte de WeFarmUp dans un instant.
BFM Business présente la 12e saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy avec Nicolas Dose.
Voilà, suite de ce quatrième éliminatoire, le dernier, on va connaître dans quelques minutes le quatrième finaliste qui sera choisi par F. Chégaret entre aujourd'hui Boombox, Maïs Sésame et WeFarmUp que l'on va continuer à découvrir ensemble tout de suite. C'est donc cette plateforme de location de machines agricoles qui a été fondée par Laurent Bernet qui est installé à Saïs, c'est en Haute-Garonne à côté de Toulouse. Et aujourd'hui nous avons un invité de marque pour accompagner F qui est Gonzague de Blinière, le fondateur de Raise. C'est un investisseur engagé.
Je suis Gonzague de Blinière, cofondateur de Raise. Raise est un écosystème vertueux qui a la plus grosse fondation pour l'entrepreneuriat en France, une fondation privée qui aide les entrepreneurs à grandir. Ma principale qualité, je crois que je suis tenace et j'aime voir grand. J'ai une devise, c'est ne pas oser, c'est déjà perdre. Moi, président, je ferai deux choses, je lui ai déjà dit d'ailleurs. Un, la simplification administrative et deux, la flexibilité de l'emploi. En tant que coach à la BFM Academy, j'aimerais être un coach bienveillant. Parce que j'ai trop de respect pour les entrepreneurs, mais aussi exigeant, parce qu'il ne faut pas leur mentir. Ce que je pense pouvoir apporter comme compétence aux candidats, c'est l'attitude de l'entrepreneur. C'est pas tant sur la technique, les idées ou leur entreprise elle-même, mais leur attitude vis-à-vis de tout l'environnement de leur entreprise. Les quatre finalistes, j'attends qu'ils réussissent. Tous les quatre.
C'est compliqué, hein. Coucou Eve.
Suite de questions-réponses avec Wifi.
Allez, on continue.
On continue. Alors, moi j'avais une question. Finalement, c'est win-win, parce que moi j'ai mon matériel qui ne sert à rien dans mon garage, je le loue à mon voisin qui en a besoin. S'ils en ont besoin en même temps, comment ça se passe?
On trouve un autre matériel. Ça, parce que mon voisin de proximité, mon voisin de terre, a besoin du matériel à même temps que mon voisin numérique.
Généralement, quand ils se mettent à vouloir aller sur les champs, ils vont tous en même temps parce que la météo, parce que la
pression... Vous n'avez pas eu ce problème, je dirais.
En fait, il y a tellement de matériel disponible sous les hangars que ce problème-là ne se pose pas. Et puis, il y a différents types d'agriculture. Vous avez l'agriculture des non-labours, l'agriculture de conservation des sols, vous avez l'agriculture plutôt conventionnelle. Ouais. Et à chaque fois, ça oblige à ce qu'il y ait des dates d'intervention différenciées avec des matériels aussi différenciés. Donc, cette complémentarité-là, on l'a fait jouer autour d'un réseau de proximité d'une vingtaine de kilomètres.
L'agriculteur achète moins de matériel.
Ça, c'est ce que je souhaite.
Oui. Le concessionnaire, les fabricants de ces machines sont aussi vos partenaires.
Oui.
Expliquez-moi comment vous faites pour ménager la chèvre et le chou, pour aider l'agriculteur à acheter moins et pour rester copain avec les fabricants de machines agricoles.
C'est tout simple. Ce que je pense, c'est que l'agriculteur doit continuer à investir dans les matériels qui créent de la valeur au sein de leur exploitation.
Plus
innovants.
Donc,
il faut des matériels de plus en plus innovants, de plus en plus technologiques, de manière à sécuriser leur modèle économique. Mais après, on a besoin dans les exploitations, compte tenu de la météo, des stratégies ou que sais-je, de matériel additionnel. Et c'est là où tout l'écosystème de la filière doit être en capacité de pouvoir fournir des matériels juste quand on en a besoin.
Est-ce que votre filière est prête pour autant d'innovations? Parce que ce qu'on commence à comprendre là, c'est que vous proposez pas seulement du matériel, mais une façon de s'organiser et de penser son métier et son avenir différemment. C'est assez lourd comme transformation.
Oui. Alors ce que je peux vous dire, je ne sais pas si elle est prête, complètement prête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est audité par beaucoup de grands boards de constructeurs internationaux qui veulent comprendre quelle est notre vision et comment on souhaite orchestrer justement la filière autour de ce principe-là. Il n'y a pas de prétention là-dedans, c'est juste qu'il y a des véritables discussions.
C'est en fait.
Là, en nombre de clients, vous êtes à combien à peu près ?
On est à 4800 utilisateurs qui sont déjà connectés à la plateforme.
Donc vous avez une plateforme aussi fantastique avec vos clients pour peut-être leur proposer d'autres services, d'autres produits. Vous avez déjà des idées là-dessus ?
Oui, Farm Up, si vous regardez le logo, il y a le matériel, il y a l'homme. Donc derrière, on imagine bien qu'un matériel technologique, il va falloir qu'il soit accompagné d'un expert qui va être en capacité de pouvoir utiliser le matériel dans les meilleures conditions et rendre le meilleur service à l'agriculteur qui sera locataire. Donc il y a tout un vivier d'idées qui peuvent naître autour de ça.
Vous allez repérer, vous, des experts et les proposer leurs compétences?
Il est probable que dans les mois qui viennent, il y ait quelque chose de ce type-là qui se passe.
Ça veut dire oui, donc.
Et vous allez vendre aussi des choses en direct ou
non.
Vous mettez pas
là-dessus. Notre modèle économique, c'est l'usage.
L'usage.
C'est essayer d'optimiser les capitaux qui sont stockés sous les hangars.
Alors justement, c'est un modèle qui est quand même laborieux. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un sacré volume pour que vous, Laurent et votre équipe, vous êtes déjà 10, que vous en viviez bien, que ce soit pérenne. Faites-nous rêver, là.
Ça, c'est l'acquisition des annonces est fondamentale. Depuis qu'on a créé WeFarm, même avant de le lancer, c'était notre priorité première. Et ça reste toujours notre priorité. On est en train de monter un réseau d'ambassadeurs WeFarm Up, c'est-à-dire des agriculteurs qui ont du temps disponible, qui vont aller connecter physiquement les exploitations dans leur réseau de proximité, mais peut-être aussi un peu plus loin. Et là, on a déjà 50 ambassadeurs qui travaillent pour nous, alors le temps qu'ils ont de disponible, en plus de leur exploitation, et qui va permettre de pouvoir accélérer les phases d'acquisition d'annonces, parce qu'une fois de plus, une plateforme, il faut qu'elle soit rempli pour qu'elle fonctionne.
Et votre rêve en chiffres, un chiffre, nombre de salariés, je ne sais pas quoi, dans 5 ans, chiffre d'affaires, un chiffre, votre rêve.
Moi, je parle toujours, c'est 1 million de matériels qui sont disponibles en France et qui sont immobilisés sous les hangars. J'aimerais qu'ils soient sur la plateforme et d'ouvrir un nouvel hangar virtuel où je vais chercher le matériel dont j'ai besoin à l'instant où j'en ai besoin. Ça, c'est mon rêve.
Ma question rituelle, de quoi vous avez besoin? Parce qu'on vous découvre, vous êtes très soutenu dans votre région à Toulouse. On comprend bien que vous avez du matériel partout. J'ai regardé, comme Laure Clausier, j'ai voulu une moissonneuse-batteuse dans le centre de Paris. J'ai vu qu'il y en avait en Vallée de Chevreuse et au nord de Roissy. Enfin, vous commencez à couvrir partout. Mais dites-nous, parce que là, je vous ai trouvé pas très gourmand jusque-là. Si vous demandez des aides, des soutiens, c'est quoi ?
Réponse courte.
Je pense déjà qu'il faut qu'on arrive à améliorer la politique fiscale. Beaucoup d'agriculteurs investissent sans dette pour comprimer l'impôt. Et ce que je pense véritablement, il faut qu'on injecte de la rentabilité dans nos exploitations. Plus elles seront résilientes et plus elles maîtriseront leurs coûts, plus on pourra conserver notre exploitation, notre typologie d'exploitation française familiale. Et ça, pour moi, c'est un véritable leitmotiv.
Voilà, donc avec nous, Laurent Bernet aujourd'hui, WeFarm Up, il est notre troisième candidat. Également Boombox, My Sésame. C'est l'heure de la mouche du coach avant le choix d'Eve Chégaray.
BFM Academy, La mousse du coach.
Sidney Rubinstein avec Boombox. Re-Sydney, rebonjour. Boombox, on a compris au début que c'était un système de cloud dans le nuage pour synchroniser les smartphones et écouter de la musique tous ensemble au même moment. Et puis on s'est rendu compte en vous écoutant que ce système de synchronisation, cette technologie qui a mis quand même pas mal de temps à voir le jour, elle avait des applications sans doute beaucoup plus larges, qu'on n'a pas forcément toutes parfaitement comprises, mais bon, qui visiblement sont bel et bien là. C'est quand même la mouche du coach d'Ève Chégaray et de Gonzague de Blinière, Ève, qui devra trancher d'ici quelques minutes.
Alors, on a effectivement compris qu'il y avait un gros marché, c'est vous qui l'avez cerné. Moi, je dois avouer qu'au début, Sidney, vous étiez mon favori, mon chouchou récréatif, parce que je me suis dit, voilà, on va parler de quelque chose d'un peu rigolo, de faire la fête, et on a besoin dans la BFM Academy de pas être que sur des chiffres et sur des trucs sérieux. Et puis on découvre qu'il y a un énorme business et que vous allez plutôt sur le B2B. Donc ma principale remarque là, c'est que je trouve que vous qui faites de la synchronisation, il va falloir synchroniser votre communication qui est très bonne, vous l'incarnez, vous êtes un cador de la com, vous êtes très à l'aise et vous pouvez nous donner des leçons à tous. Mais là, votre message et ce qu'on voit de vous sur les réseaux sociaux, tout simplement dans Google quand je cherche et encore hier soir en recherchant de l'actualité sur vous, ne me dit pas ces grands projets. Peut-être parce que c'est pas encore signé avec ces grands comptes. Bon, première remarque. Et deuxième remarque, pour laisser du temps à Gonzague, c'est que vous êtes... aujourd'hui, un piou-piou qui vous adressait à un truc énorme, et c'est tant mieux, et c'est ces sueurs froides-là qu'on aime, les frissons que nous donnent les entrepreneurs, mais ces distributeurs de cinéma, ces grandes radios, ces grands groupes de médias, c'est du costaud, vous êtes déjà quatre, c'est génial, et en même temps, vous êtes que quatre, et vous cherchez, à mon sens, pas assez d'argent. Je crois que vous pouvez aller beaucoup plus fort, c'est facile à dire. Moi, j'ai envie de vous voir avec un discours encore plus ambitieux.
Gonzague de Blinière, deux, trois éléments qui vous ont chagriné peut-être dans le...
Alors, un premier élément qui m'a chagriné, c'est ce qu'a dit Ève, parce que je suis pas d'accord avec vous, Ève. Je pense que le marché n'est pas si grand que ça. Moi, j'ai du mal à sentir, à percevoir ce marché. J'ai dans ma tête mes enfants qui se mettraient à tous les quatre avec le même smartphone pour écouter de la musique.
Mais la musique, c'est pour tout le monde, pas pour les enfants only.
Donc moi, je suis pas complètement convaincu du marché. En tout cas, je pense que c'est un marché qui, pour la atteindre, et là je suis d'accord avec Ève, il faut mettre beaucoup d'argent. Donc moi ce qui m'a choqué c'est les 400 000 euros. Si vous avez des monstres autour de vous, vous avez des gens qui vont pas laisser vous laisser faire comme ça, donc il faut aller vite et fort. Donc pour moi c'est pas 400 000 euros d'argent qu'il faut lever, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Donc les deux
c'est
premiers,
voilà, qui
les
part,
deux premiers points en fait reprennent ce que disait Ève. C'est-à-dire communication finalement qui est en décalage par rapport au coup d'après que vous avez en tête, qu'on n'arrive pas encore vraiment à lire aujourd'hui, qui donne effectivement l'impression que vous vous adressez à un petit marché récréatif.
Alors, parce qu'on ne veut pas trop en dire, parce que premièrement, notre communication grand public, c'est du B2C, c'est de faire parler de l'app, et c'est via ce vecteur-là qu'on veut insuffler le concept. Voilà, en fait, il y a une volonté d'évangélisation autour de ce que c'est que la synchronisation et de vivre cette expérience-là. C'est ça notre objectif. Après, sur notre stratégie B2B, en réalité, nous, pour l'instant, on a fixé à 400 000 euros, qui est un objectif qu'on a estimé réaliste dans nos projections financières. Évidemment, on pourrait être dans la course, comme beaucoup de start-up, à lever. C'est pas l'objet. Peut-être qu'on relèvera dans un deuxième temps très rapidement. C'est peut-être comme ça qu'il faut le faire. Le voir peut-être en
par
plusieurs
étapes.
Parties. Exactement.
Oui, mais on aurait pu dire, on va lever beaucoup d'argent et on commence par 400 000 euros. C'est pas ce que vous avez dit.
Bah, on commence. Notre objectif aujourd'hui, à moyen terme, à court terme, c'est celui-là. On verra où on en est dans un an ou dans deux ans, en fonction des opportunités qu'on a. Et après, pour rebondir sur le B2B, en réalité, nous, on a mis le doigt sur une technologie qui vient s'insérer dans énormément de marchés qui sont pas forcément visibles du grand public. Et ce qui fera qu'on réussira, c'est parce qu'on apporte une solution qui va être beaucoup moins chère à exploiter pour une simple et bonne raison, c'est que pour une diffusion, qu'on parle de la radiofréquence, qu'on parle des cinémas, qu'on parle de dans énormément d'endroits, une fine, l'utilisateur final sortira son propre téléphone, son propre hardware que lui aura même dépensé, et que donc c'est un coût et un support que les exploitants n'auront pas à avoir.
C'est
là
la
différence.
Sidney Rubinstein avec Boombox à suivre, la mouche du coach de My Sésame. Laurence Grandcola, donc avec My Sésame, la formation aux innovations sociales, le pari que l'on peut effectivement faire converger le business et le progrès social au sens large, la mouche du coach d'Ève Chégaray.
Alors, je fonce bille en tête, c'est la boîte que j'aurais aimé créer, moi. Voilà.
Dommage.
chômage. Non, mais l'experte, c'est vous, Laurence, et ça va venir à mon point. Je suis évidemment complètement séduite. Vous avez un bagou incroyable et une capacité à faire de la pédagogie, donc bravo d'avoir choisi la formation. Je vais vite sur ça. Moi, je pense que votre grand atout, c'est vous, l'atout de My Sésame, et c'est aussi votre point de faiblesse, peut-être, ou de risque. J'ai un peu le sentiment que vous portez beaucoup de choses toute seule. Votre réseau, j'entends parler surtout d'influenceurs ou d'ambassadeurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de gens que ça autour de vous qui sucent en haut pour que cette boîte devienne une étoile au firmament. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai à dire. Et là, je pense qu'il faut que vous recrutiez vraiment.
Au Gonzague de Blinière.
Moi, peut-être un associé.
Oui. Bon, moi, ça y est, je suis convaincu, on va faire une société anonyme plutôt de faire une association.
C'est pas mal d'avoir convaincu Gonzague, voilà, déjà.
Par contre, moi, c'est la croissance qui me stresse un peu. Et je pense que vous l'avez pas dit, bah, il nous faut lever, par exemple, 300 000 euros parce que je veux recruter pour accélérer plus vite. Et je pense que pour s'installer, il faut être nombreux. Et si vous voulez faire du chiffre, vous voulez arriver à 100 000 euros dans les 3 ans qui viennent, il faut quand même y aller. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'intentions. Je pense que vous êtes dans l'air du temps, ça c'est incontestable. Je pense que vous avez l'expérience d'Ashoka, mais pour croître, à mon avis, il faut plus de moyens. Voilà, et je pense qu'il n'y en a peut-être pas.
Alors, Laurence Grand-Colas, c'est vrai que vous avez 85% du capital encore dans vos mains aujourd'hui, donc trop seul, pas assez accompagné, des perspectives de croissance qui demandent plus d'ouverture, justement, comme on en a déjà parlé avec Laure Closier dans nos chroniques pile ou face. Vos réactions à ces opinions?
Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est des remarques très justes. Mais bon, j'ai trouvé une nouvelle associée. Eve, vous avez envie de rejoindre le projet, donc ça, c'est fait.
Il faut déjà que je fasse la première partie de ce parcours de formation.
Voilà.
Et c'est 300 000 euros.
Effectivement, il y a un enjeu de changement d'échelle et moi aussi de transmettre ce savoir et cette expertise que j'ai accumulée. Là, on est sur des perspectives de croissance. On va faire 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année, un peu plus de 350 à 400 l'année prochaine. Donc, on est dans un rythme de croissance où on commence déjà à pouvoir staffer une équipe. Il y a une question de régionalisation de notre modèle aujourd'hui aussi pour pouvoir toucher d'autres territoires. On est très franciliens, donc ça va être un de nos enjeux. Et comme je le disais en introduction, notre sujet, il est aussi d'avoir des stratégies partenariales. Aujourd'hui, pour toucher plus de clients, plus d'entreprises, on travaille avec le réseau APM qui est le réseau des PME, des dirigeants de PME. On travaille avec des réseaux territoriaux comme le réseau Alliance dans le Nord. Donc on noue des alliances stratégiques aussi pour répondre à cette question et de l'isolement, et voilà. Mais c'est vrai que moi, mon vrai enjeu, c'est de transmettre, de former et de recruter.
Vous pourriez avoir un ou des associés?
J'adorerais.
Bon, c'est peut-être un appel.
Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut juste trouver les gens qui partagent la même vision et la même envie.
My Sésame, donc avec Laurence Grand-Colas, dernière mouche du coach avant le choix définitif de Eve Chégaret. On accueille à nouveau dans ce studio Laurent Bernède et WeFarmUp. Laurent Bernède, avec WeFarmUp, la plateforme de location de machines agricoles, cessez de vous endetter, gagnez en compétitivité, n'achetez plus, mais louez, bon sang, il n'y a que ça de vrai. Voilà, la mouche du coach. Eve Chégaret et Gonzague de Blinière.
Séduite, je le suis. Je me pose des questions sur votre démarche commerciale. Vous êtes, bon, une équipe, mais je vous sens très très sur le front. Je me demande comment vous faites pour tout faire. Et j'ai pas vraiment entendu de votre part quelle était votre démarche commerciale, comment vous alliez gagner de l'argent, le potentiel, on l'a compris, là où vous projetez, vous le racontez très très bien. Et donc finalement, je vous entends paradoxalement presque plus être un homme de concept qu'un homme de développement commercial. Et c'est ça qui me titille aujourd'hui.
D'accord. Donc on se rémunère...
Et peut-être juste le feedback de Gonzague avant de...
Allez-y, Gonzague de Minière.
Alors, je suis... Comme Eve, c'est vrai que vous avez un purpose, vous donnez un sens à votre boîte puisque vous voulez aider ce monde de l'agriculture. Je suis un peu d'accord avec Eve. Je sens le type qui veut changer les choses dans un monde qu'il connaît bien, avec l'accent qui va bien. WeFarmUp, on aurait pu le faire en français, bon ça c'est pas grave. Je sens pas le businessman, le type qui dit bon voilà, je vais faire tel résultat avec telle marge, je veux atteindre tant de salariés. Enfin, je sens peut-être pas cette volonté farouche qu'a l'entrepreneur de se lever tout le matin en disant je veux faire du chiffre d'affaires.
Ouais. Pourtant cette volonté on la communique peut-être pas encore parce que bon voilà, et c'est pas une réalité encore à l'heure actuelle. Nous notre rémunération on l'a fait sur les locations, c'est-à-dire sur le service que l'on rend aux agriculteurs. Donc, c'est le principe de base. Mais on va avoir différents étages, on l'a expliqué tout à l'heure. Oui. Donc, il va y avoir différents interlocuteurs. En fait, on adresse par notre plateforme la totalité de la filière et on customise des offres sur des clients, des cibles de clients très particuliers, où le service d'intégration va être beaucoup plus fort que chez un agriculteur.
Je refrais un peu mon jurement en arrière, parce que quand j'entends intégration, customisation, c'est quand même un business model.
C'est quand même intéressant. Mon autre remarque, c'est en termes de lobbying, il y a malgré tout un concurrent qui existe. Je suis allée voir son site, volontairement, je ne vais pas le citer, et je vous fais une remarque exprès pour vous titiller. Il y a là, dans quelques heures, quelques jours, une manifestation qui se tient au NUMA à Paris sur l'agriculture collaborative, les nouveaux modèles, etc. Votre concurrent est associé à cette manifestation et je n'y ai pas vu votre nom. Vous n'y êtes pas partie prenante. Je veux vous voir parler sur ces tables rondes qui se tiennent dans quelques jours. Comment ça se fait que vous n'y êtes pas?
Alors déjà, je ne crois pas que ce soit l'économie collaborative au sein du monde agricole qui soit le sujet de la journée de l'UMA. Et nous-mêmes, nous avons monté une association qui s'appelle le Co-Farming, où on a bâti une association de plusieurs acteurs de l'agriculture en réseau. Et notre positionnement à nous, c'est l'agriculture en réseau. C'est le fait de connecter les exploitations et de faire émerger tous ces actifs, matériels, compétences, données. Il y a énormément de sujets à traiter autour de l'optimisation des actifs de l'exploitation agricole. Et ça, c'est le mouvement qu'on est en train de créer.
Donc vous avez un rôle d'évangélisateur en plus de votre business.
Complètement.
Bon, voilà les bouches du coach. Alors maintenant, c'est le choix du coach. C'est Eve Chégaré qui va trancher entre la machine agricole, la location de machine agricole et le co-farming, l'agriculture en réseau de WeFarmUp, la formation des managers aux innovations sociales de MySésame, et puis la synchronisation des données au sens large, on va dire, même si on n'a pas tout compris, entre smartphone de Boombox App.
BFM Academy. Le choix du coach.
Eve Chégaré, on arrive au terme de cette quatrième éliminatoire en tant que présidente et coach de cette quatrième émission. C'est à vous de décider lequel ira en finale.
Mais justement, j'aimerais bien...
Vous voulez que les trois viennent?
Oui, voilà.
Voilà.
Je voudrais un passe-droit.
Tous les ans, elle me fait le même coup.
C'est vrai, je me répéterais, tiens, comme c'est étonnant. Bon, il y a la boîte que je rêvais d'inventer, c'est celle de Laurence, c'est MySésame, qui est, je pense, promise à un bel avenir, avec évidemment ses difficultés et ses challenges, mais c'est tellement le sujet du moment, c'est une réalité géopolitique même. Bravo pour ça. Il y a la boîte que mon fils aurait voulu créer, c'est celle de Sydney.
On l'embauche pas.
Parce que c'est techno, et c'est vrai qu'il l'a souligné dans son dossier, c'est une des rares vraies inventions, innovations techno de bout en bout de cette saison. Et puis il y a la boîte de Laurent, qui est sur un truc qui est totalement vital, parce que l'agriculture, c'est ce qu'on mange, donc c'est notre chair, c'est notre terre, c'est notre avenir, et c'est pour ça que je vais bosser sur ça avec Laurent, parce qu'il y a beaucoup de challenges en communication, donc je choisis WeFarmUp.
Voilà, notre quatrième finaliste pour la finale, qui sera dans trois semaines, c'est donc WeFarmUp avec Laurent Bernet, qui sera accompagné par Eve Chégaré, il y aura Coussin Victor, accompagné par Evelyne Plétnik-Cohen, également Sherpay, qui sera le petit bébé de Fabrice Marcel. C'est là. Et puis, Travolib, ce sera Geoffroy de Bec de Lièvre. Dans trois semaines, c'est la finale Eve Chégaré. D'ici là, deux émissions nous attendent dans un format un petit peu, même très, très
Alors,
particulier.
Alors, deux émissions où on retrouve tous les finalistes. La première fois qu'on le fait comme ça, on va les coacher pour les préparer à des rendez-vous à fort enjeu, des challenges chez des clients, chez des groupes de lobby, dans le monde public, chez des partenaires potentiels qui n'arrivaient pas à rencontrer. Donc, on essaie de passer avec eux un cap. Donc, on les coach, on les accompagne et on débriefe et on prépare la finale.
Finale dans trois semaines, BFM Academy saison 12. On se retrouve la semaine prochaine pour les émissions coaching. Merci à Gonzague.
Merci à Gonzague
d'avoir
Merci
été Merci avec nous. Guest star de cette quatrième éliminatoire. Donc à dans une semaine.
BFM Academy sur BFM Business. Le 19 juin, il n'en restera qu'un.